L'hypnose semble investir beaucoup de domaines de notre vie, soit en tant que divertissement sur le petit écran et dans les salles de spectacle, soit dans les hôpitaux comme hypnose médicale pour lutter contre la douleur, ou l'hypnose thérapeutique utilisée par l'hypnothérapeute, le psychiatre ou la psychologue pour nous aider à changer des comportements addictifs ou destructeurs, pour soigner des phobies, des anxiétés, tout simplement pour aider à aller mieux. Et cette complexité et cette large palette vous a intéressé, Lydia Gabor?
Mais oui, et j'ai voulu savoir si c'est la même hypnose dans toutes ces situations, comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices et est-ce que c'est remboursé par exemple. Mmh. J'ai rencontré donc plusieurs praticiens et spécialistes qui chacun a soulevé un bout du mystère sans qu'aucun le révèle totalement. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'hypnose et comment cela se produit? Laurence Danner est infirmière hypnothérapeute au CHUV à Lausanne et Alexandra Mella, directrice de l'Institut Roman de l'hypnose.
Alors, on va permettre au patient d'entrer en contact avec ses ressources, avec ce qui est déjà en lui. Moi, en tant que praticienne, j'ai pas de solution, j'ai pas d'idée. Et on va le mettre dans un état qui est un petit peu différent de l'état habituel, de conscience habituelle, qui va lui permettre justement d'entrer en contact avec ses ressources. Et c'est un petit peu comme si la situation dans laquelle il est actuellement, c'était une vision de fourmi. Il est le nez devant les choses. Et puis, ça va lui permettre d'avoir une vision d'aigle. Il va voir les choses avec du recul, avec...
Et ensuite, quand la séance commence, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un dialogue ou c'est plutôt une imagination?
Ben, on va focaliser d'abord l'attention du patient sur quelque chose. Donc, on va lui permettre de quitter un petit peu le monde actuel où il est soumis à toutes sortes de stimulations, auditives, visuelles, etc., pour focaliser sur une des choses. Ça peut être la respiration, ça peut être le contact du corps avec le fauteuil, ça peut être des choses un petit peu plus théâtrales qu'on voit, fixation du pouce, fixation d'un objet et tout ça, pour concentrer un petit peu son imagination et lui permettre de passer dans un autre fonctionnement mental.
L'hypnose est un état modifié de conscience, ce que nous appelons l'état hypnotique ou l'état des transes hypnotiques. Un état modifié de conscience veut dire que on est dans un état d'hyperconscience, on est dans un état d'alerte. On est encore plus conscient que d'habitude. L'hypnose est un mode de communication et est également un ensemble de techniques, dont l'induction et la suggestion, qui permettent la transformation du ressenti ou des symptômes ou du vécu.
Alexandra Mella, directrice de l'Institut Roman d'hypnose. Donc un état modifié de conscience, finalement peut-être un peu comme quand on regarde un film ou qu'on fait un jeu, on est concentré, on s'éloigne de la réalité immédiate.
Oui, et l'état d'hypnose ou de transe est en fait un état naturel, on s'y met tout seul à certains moments, sauf qu'ici il s'agit de s'y mettre volontairement. Donc Bernard Jouvel est hypno-coach, là on n'est plus du tout dans le domaine médical, du centre Hypnose Vaud, et Alexandra Mella, qui est psychologue, elle, est directrice du centre Roman d'hypnose.
Très souvent, on va proposer à la personne d'imaginer une solution. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est quand on est dans un état de conscience modifié, quand on s'adresse à l'inconscient, ça lui parle beaucoup, l'imagination, les symboles, les métaphores. À partir du moment où la solution commence à devenir très concrète dans l'imagination, eh ben, en fin de compte, elle devient réelle. Vous savez d'ailleurs, au niveau des neurosciences, on a pu prouver que le cerveau ne sait pas tellement faire la différence entre l'imagination et la réalité. Et en hypnose, on utilise beaucoup ce biais-là.
On utilise ce qu'on appelle l'induction, qui est la porte d'entrée à l'état des transes. L'induction consiste à faciliter la focalisation de l'attention sur un stimulus précis. Et en focalisant son attention sur ces stimulus, on s'éloigne de ce qui se passe autour. La vigilance périphérique diminue, ce qui fait qu'on reste concentré sur cela. On est dans un état de perception qui est modifié. Et quand on est dans cet état de perception modifié, on perçoit donc les choses autrement. Et quand j'ai dit qu'on peut percevoir les choses autrement, c'est là où la transformation peut se produire. La transformation du ressenti, la transformation du vécu. Quand je parle des transformations du ressenti, je parle par exemple la transformation de la sensation ou de la perception de la douleur. C'est comme ça qu'on peut apprendre à gérer par soi-même, à travers l'hypnose, à l'aide des techniques hypnotiques, la douleur.
Donc on peut diminuer une douleur grâce à l'hypnose. Là, il s'agit d'hypnose médicale.
Oui, et c'est l'hypnose médicale utilisée dans les hôpitaux lors de certaines interventions chirurgicales ou de soins douloureux lors de traitements, par exemple en pédiatrie. Je vous propose le témoignage de Gwendoline qui pratique l'hypnose médicale au CHUV à Lausanne et Laurence Danner, infirmière et hypnothérapeute en pédiatrie au CHUV.
Alors moi je m'appelle Gwendoline, j'ai 19 ans. Et j'ai découvert l'hypnose il y a à peu près une année et demie quand j'ai été hospitalisée pour des douleurs aiguës après une opération.
Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez accepté la première séance ?
Alors, la première séance, je l'ai acceptée à moitié. J'ai dit qu'on pouvait faire un essai, mais j'étais pas vraiment prête à rentrer dans la séance. Du coup, on a arrêté. Et après, c'est une deuxième infirmière qui est passée quelques jours plus tard. Et je pense que c'est le fait que ça a dû coller entre nous, parce qu'elle a réussi à percer dans le mur et à faire en sorte que je me laisse aller. Et là c'est passé et puis c'est devenu génial, vraiment. Alors en fait, pour moi, ce qui a été génial, c'est que ça m'a permis de m'évader, on va dire, de m'éloigner de ma douleur et de pas avoir mal pendant une demi-heure. Alors ça peut paraître peu, mais quand on a mal constamment 24 heures sur 24, une demi-heure de répit, c'est déjà beaucoup. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est couché et pour moi, elle me parle, elle me fait me relaxer. Des fois, on parle de détente, de partir sur une plage. Et elle arrive avec un travail sur les mots à vraiment faire que tout le corps se détende. Et c'est ça qui vraiment m'aide.
Mais comment vous arrivez à tout d'un coup oublier la douleur grâce à ça ?
Alors ça, c'est une question que je me pose assez souvent en fait, parce que c'est impressionnant, mais je sais pas, c'est juste, on se laisse prendre par les mots et par le fait d'être dans une sorte d'autre monde, et c'est juste qu'on oublie la douleur.
Est-ce que vous prenez aussi des calmants en même temps, ou justement c'est pour éviter de prendre trop de calmants ?
Alors je prends quand même beaucoup d'antidouleurs. Mais c'est vrai que les séances d'hypnose, ça me permet de baisser un petit peu certaines doses de médicaments. Et ça j'apprécie quand même.
Est-ce que vous utilisez parfois vous-même l'hypnose pour d'autres choses ?
Des fois, quand je suis stressée, ça m'arrive de faire les exercices qu'on fait au tout début de l'hypnose et tout, pour essayer de me détendre et de pouvoir faire les choses correctement sans avoir la boule au ventre, quoi. Donc ça, pour le stress en tout cas, moi, je l'utilise.
Et vous pensez, quand cette maladie sera guérie, vous continuerez, pour vous, dans d'autres domaines, de pratiquer l'hypnose ?
Oui, en tout cas, pour tout ce qui est situation de stress ou de forte émotion, ça, je suis certaine que je vais continuer à l'utiliser.
Donc, quelque part, c'est un changement dans votre vie de connaître ça ?
Oui, c'est vraiment quelque chose d'utile et je suis vraiment contente d'avoir connu ça.
Et c'est comme un traitement ? Je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut poursuivre à plusieurs séances ?
Alors, l'idée, c'est quand même de rendre au patient son autonomie, de lui apprendre à faire l'auto-hypnose pour qu'il puisse accéder à cet état tout seul, donc se faire du bien tout seul. Mais on sait que quand la douleur est de long terme ou importante, c'est parfois moins facile. Et puis, une petite séance guidée, ça fait toujours plaisir, je pense. Moi, la partie que je trouve importante, c'est de rendre vraiment l'autonomie au patient. Il peut faire quelque chose pour lui, pas juste avaler une pilule, un médicament. Il peut, là, prendre un temps pour faire un soin lui-même.
Dans l'idéal.
Oui. L'idée, c'est quand même toujours de rendre l'autonomie, donc de lui apprendre à pratiquer l'auto-hypnose.
Donc, lorsqu'on peut pratiquer tout seul l'hypnose, Lydia, c'est ce qu'on appelle justement l'auto-hypnose.
Mais oui, et c'est ce que pratiquait par exemple Bernard Picard lors de ses vols sur Solar Impulse. C'est une haute maîtrise quand même de cette technique. Mais comment marche l'hypnose thérapeutique utilisée en coaching et en psychologie ? C'est Bernard Jevel du centre Hypnose Vaux qui nous répond.
L'idée, c'est de rentrer souvent dans un monde plus imaginaire. De manière générale, l'idée, c'est d'aller occuper le conscient pour faire émerger et pour pouvoir mieux communiquer avec l'inconscient. Si je prends par exemple le cas d'un client très récemment, en fait, on va essayer de le ramener dans le passé. Et en fait, pour prendre le cas de ce jeune homme, ben lui, quand il était adolescent, l'idée d'aller fumer, c'était de pouvoir sortir de la maison parce qu'il avait une relation très compliquée avec sa maman et qui avait l'air d'être très autoritaire, en tout cas tel qu'il le décrit, et puis d'aller dans la forêt, d'aller sur une pierre particulière et puis d'aller fumer sa cigarette, et à ce moment-là, il avait le sentiment d'être libre. Alors vous imaginez, quand à 40 ans, si on se dit, tiens, maintenant je veux arrêter la cigarette, est-ce que vous êtes prêt à lâcher votre liberté pour autant ? Donc vous voyez qu'il y avait tout un travail à faire, et tout ça, vous me posez la question de comment on fait, c'est vraiment un dialogue.
Par exemple, dans ce cas de lien entre la cigarette et la liberté, quelle serait la chose qu'on pourrait suggérer ?
Alors là, pour le coup, déjà, c'est une grande découverte pour la personne de réaliser que le fait de fumer, c'est lié à un sentiment de liberté. Alors, la première question qu'en tant qu'hypnothérapeute, on a envie de lui poser, c'est est-ce que tu te sens libre dans ton rapport à la cigarette ? À ce moment-là, ce qu'on va proposer à l'inconscient, c'est qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre qui permette de protéger cette liberté ou d'avoir ce sentiment de liberté, mais avec un autre comportement que celui de la cigarette.
Comme quoi, par exemple, Lydia, quel autre comportement on peut adopter à la place, alors, quelque part, de la cigarette ?
Pour certains, ce qui marche, c'est par exemple remplacer la cigarette par une tasse d'excellent thé, mais que l'on va consommer dans le même rituel, c'est-à-dire, par exemple, sur le balcon, comme un moment exclusif à soi. Mmh. Il y a aussi aller promener son chien à la place d'un verre de whisky quand on rentre à la maison, par exemple, à voir, hein, chacun chez soi.
On peut trouver un autre comportement qui remplace procurer le même sentiment.
Oui, mais qui est jouissif. C'est pour ça qu'il doit travailler avec le subconscient du patient, parce que c'est le patient qui doit trouver quelque chose qui, quelque part, lui inspire.
Lui fait plaisir aussi.
Exactement.
Et pour remplacer ce plaisir par autre chose.
Mais est-ce que cette hypnose est une thérapie en soi ou plutôt une technique à utiliser dans différents domaines ? C'est Alexandre Amela et Bernard Jevel qui nous répondent.
L'hypnose est une technique que nous utilisons dans notre cadre professionnel. L'hypnose n'est pas une thérapie en soi. C'est pour cela que nous soutenons la pratique de l'hypnose par des professionnels de la santé. En ce qui concerne l'hypnose médicale et thérapeutique, il y a aussi les professionnels du domaine social qui pratiquent l'hypnose dans la relation d'aide et dans l'accompagnement. Mais l'hypnose n'est pas une thérapie, mais une technique que nous appliquons donc dans notre travail thérapeutique ou médical ou d'accompagnement.
À peu près combien de séances et quel budget pour, par exemple, essayer d'arrêter de fumer ?
Pour essayer, alors c'est vraiment difficile de répondre à cette question parce que chaque cas est différent. Et je ne voudrais pas donner... Il n'y a pas de règle, en fait. Dans mon expérience, je constate qu'il faut entre 3 et 6 séances. En termes de budget, les séances durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Le budget d'une séance, ça dépend des thérapeutes, mais entre 150 et 250 francs à peu près.
On va revenir sur ces questions de prix, Lydia, mais l'hypnose, on va donc le rappeler, c'est un outil, une technique, pas une thérapie. Mais qui c'est qui peut l'utiliser, cet outil, cette technique ?
Voilà, c'est bien la question. Qui peut se dire hypnothérapeute et comment trouver le bon ?
Qui nous correspond, comme le témoignage de Gwendoline tout à
l'heure. Oui, et qui pratique dans les règles de l'art. Donc, Patricia Farny est infirmière en pédiatrie et responsable des soins en hypnose au CHUV. Et de nouveau, Alexandra Mella, psychologue et directrice du Centre Roman d'hypnose.
Tout le monde peut se dire hypnothérapeute, mais c'est vrai qu'ici au niveau hospitalier, toutes les personnes qui pratiquent l'hypnose sont formées par des instituts qui sont reconnus. Et ça, c'est très important pour garantir la qualité de ce que nous proposons.
Et ça, c'est dans le cadre du CHUV, mais à l'extérieur, c'est un métier qui n'est pas protégé.
C'est un métier qui n'est pas protégé. Effectivement, tout le monde pourrait, moyennant bien sûr une formation, pratiquer l'hypnose.
Et donc, comment savoir quels sont les bons ?
Difficile à dire. Je pense que c'est important de se renseigner de quelle formation ces personnes ont fait. Je pense que c'est important de voir comment elles ont été formées et puis de tester, je pense.
Effectivement, l'hypnose n'est pas protégée en Suisse, comme elle ne l'est pas non plus en Europe. Et donc, il est important d'encourager les usagers à s'adresser à des praticiens en hypnose qui ont une formation de base dans le domaine de la santé, si la consultation concerne l'hypnose médicale ou l'hypnose thérapeutique. Pourquoi ? Parce que quand on pratique l'hypnose, il y a des émotions qui peuvent se manifester et des réactions qui peuvent avoir. Et pour pouvoir prendre en charge cela, il est nécessaire d'avoir une formation dans le domaine de la santé, pouvoir bien accompagner le patient ou l'usager.
Est-ce que l'hypnose peut être remboursée ?
Alors, il n'y a pas actuellement des positions TARMED pour l'hypnose. En ce qui concerne les médecins, les spécialistes peuvent utiliser leur propre procession d'intermède. Une infirmière peut accompagner un patient avec l'hypnose dans le cadre de son travail d'infirmière. Un physiothérapeute, un ergothérapeute, une sage-femme, etc. En ce qui concerne les psychologues peuvent utiliser l'hypnose dans le cadre de la psychothérapie. Alors, il y a des assurances complémentaires qui entrent en matière. Et pour cela, il est conseillé que l'usager s'adresse à son assurance complémentaire et consulte quelles sont les conditions de remboursement, parfois partielles, d'une séance d'hypnose.
Donc, bien se renseigner avant de s'engager dans une séance d'hypnose et préférer surtout les praticiens qui ont donc une formation dans la santé à la base. On peut aussi se faire recommander par son médecin ou par des proches. Ça peut aussi être une bonne solution. Ou alors, il ne reste que son feeling et son intuition.
Non, mais qui, lorsqu'on pratique l'hypnose, a beaucoup d'importance.
C'est ça, parce qu'il faut que ça marche avec la personne. En tout cas, c'est ce que disait le témoignage de Gwendoline tout à l'heure.
Et maintenant, ladies and gentlemen, la question. Quel rapport entre ces différentes pratiques de l'hypnose dont on vient de parler et l'hypnose dite de spectacle à la télé ou sur scène, pratiquée par exemple par des gens comme Mesmer et bien d'autres. Donc réponse à la fois de Bernard Jouvel, donc coach et hypnothérapeute, et Alexandre Amela.
Pour l'hypnose de spectacle, en fait, il y a quand même deux éléments qui vont faire la différence. Le premier, c'est qu'on ne le voit pas toujours, mais en fait, il faut une sélection pour prendre des personnes qui sont particulièrement suggestibles. On considère qu'il y a entre 5 et 10% de la population qui est plus suggestible. Si vous avez une salle de 2000 personnes, 10%, ça fait 20 personnes, vous avez de quoi faire votre spectacle. La deuxième chose, c'est que les gens sont d'accord d'aller sur scène. On leur a vendu l'idée de vivre une expérience incroyable et ils sont quelque part d'accord de faire la poule sur scène. Il y a peut-être un fantasme de l'hypnotiseur qui est capable de prendre le contrôle sur ces sujets, et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je ne vis pas au quotidien. En fait, le boulot de l'hypnothérapeute, c'est plutôt de trouver une façon que ces suggestions, elles passent. Parce qu'en fait, si on a l'impression de plus contrôler avec notre esprit conscient, il y a toujours l'inconscient qui est là, qui veille et qui nous protège. Et en fait, il nous interdira de faire quelque chose qui va contre nos valeurs.
Ce qui est important de savoir, c'est que l'hypnotiseur de spectacle n'est pas investi des pouvoirs particuliers pour pouvoir influencer les personnes à leur insu. Donc les personnes qui vont dans les spectacles, les personnes qui assistent, qui sont d'accord d'aller sur la scène ou même à la télévision, qui sont d'accord, si vous voulez, de jouer le jeu, du moment qu'ils sont d'accord d'aller là-dedans ou d'aller devant ou de le faire, il y a une disposition tacite à recevoir, si vous voulez, les suggestions qui vont être proposées par l'hypnotiseur. Donc l'hypnotiseur ne peut pas le faire à l'insu de la personne. D'accord? On peut avoir cette idée de manipulation ou de contrôle, des prises de contrôle sur la personne, mais quand on fait de l'hypnose, on ne peut pas avoir cette prise de contrôle sur la personne. Si la personne ne le souhaite pas, cela ne se passe pas.
Donc, et c'est plutôt rassurant, on ne peut pas être hypnotisé à son insu.
Eh bien, comme vous venez de l'entendre, donc selon Alexandra Mella, qui sait de quoi elle parle, puisqu'elle est formatrice et responsable du Centre Rome de l'hypnose, on est toujours consentant lorsqu'on se fait hypnotiser en public. Et des tests sont faits au préalable pour repérer les personnes les plus suggestibles. Par exemple, quand on vous demande de mettre les deux mains sur la tête, Mesmer, par exemple, il le fait dans certains spectacles, il observe comment les personnes mettent la main et comment ils suivent déjà les indications. Et effectivement, il y a des gens qui vont suivre plus à la lettre que d'autres. Mais je trouve que c'est vraiment un sujet en soi, donc je vous propose qu'on reprenne le sujet.
On pourra y revenir.
Je vais partir à l'enquête, parce que j'ai aussi appris que ce sont deux sources différentes. L'hypnose dont on a parlé, médicale et thérapeutique, a sa source chez Milton Erickson, qui était un médecin de formation, et l'autre a sa source chez Dave Hellman, qui n'était pas médecin, qui était homme de radio, et qui en fait avait été marqué dans son enfance par une maladie de son père très douloureuse, dont un ami qui pratiquait l'hypnothérapie a aidé à moins souffrir. Donc lui, il a des phases beaucoup plus rapides. Il y a toujours les deux mêmes phases. L'induction qui essaye de brouiller la logique du cerveau et après la suggestion.
Et on reviendra donc, Lydia, avec plaisir sur cette hypnose de spectacle. Merci en tout cas pour ces précisions et ce panorama fouillé sur l'hypnose médicale, thérapeutique et qu'on peut pratiquer donc selon les conditions qu'on vous a rappelées. Bien se renseigner en tout cas pour savoir si c'est remboursé et puis préférer des praticiens qui ont une formation dans la santé ou se faire recommander quelqu'un par son médecin ou ses proches. Merci Lydia.